Micro, microscopie, suite. Suite, microscopie, suite. Édouard Zambo.
On se retrouve pour la seconde partie de ce microscopie consacré aux invisibles citoyens qui peuplent les recoins et les sous-pentes de nos villes, des sans-domicile fixe qui occupent les médias et bénéficient d'une certaine attention en hiver et qui subissent bien souvent des arrêtés anti-mendicité, voire pire, au beau jour. Pour nous accompagner dans cette émission, nous sommes évidemment toujours en compagnie de Daniel Terrol, maître de conférence à l'Université de Paris 8, membre du laboratoire d'anthropologie urbaine du CNRS et spécialiste de la population des sans-domicile fixe et des pauvres en général. Pour commencer, Daniel Terrol, je vous propose de repartir sur le terrain tout de suite à la rencontre de l'un de ces fantômes qui vit en marge de la ville. C'était il y a quelques semaines à Paris et Afid venait d'apprendre qu'il allait très vite devoir quitter les abords du périphérique, ce grand boulevard qui enserre la capitale française, où il a construit un abri de fortune et il raconte et il explique au micro d'Aline Leclerc les raisons de cette expulsion.
Vous avez dans les tapis ? Allez, on m'a pas vu toute la journée, hein ?
Ah non, c'est plus toi.
Tout le monde m'appelle Afid et j'ai, on va dire, un petit 45. Bon, c'est là que j'habite, voilà. À la limite, t'as bien vu, hein, t'as mis du temps à voir que je suis là. Hein. Et ça se voit quasiment pas. Il faut vraiment faire attention pour nous voir. Là, on est à la, comment dire, à la porte Montmartre, exactement. Le long du périphérique. Hein. Derrière, il y a les hôtels. Il y a la Formule 1 et l'étape. Et de ce côté-ci, c'est l'hôpital Bichat. Là, on est dans un espace vert. C'est-à-dire, bon, il y a une petite butte, il y a, bon, il y a, tu vois, il y a le mur, il y a un grillage, on est derrière. Et comme le mur est un peu assez haut, on ne nous voit quasiment pas. On nous voit, bon, il y a sur 50 cm. 50 cm, vous n'allez pas me dire que c'est là que ça va déranger les touristes. On va monter, c'est mieux comme ça, je peux. Là, par là. D'habitude, c'est plus clean que ça, parce que là, c'est un peu crade comme je suis en train de... Vous savez, j'enlève toutes les affaires, je fais plus nettoyage.
Voilà.
Bonjour, monsieur.
Mes collègues. Voilà, ben, tu vois, là, il y a mon lit. Là, il y a notre chambre. Là, c'est une chambre d'un pote.
Et là, c'est vous qui l'avez construit, ça?
Ah ouais, c'est moi qui l'ai fait.
Quand vous êtes arrivé, il n'y avait rien?
Il n'y avait rien, non, y a absolument rien. C'est monté sur palette et tout. À la limite, il n'y a rien qu'à prendre, à enlever la palette et puis tout barre. Hein.
C'est une cabane un cabanon en bois, hein. Y a un toit en bois. Et donc bon, là, voilà. Vous avez mis des bâches pour que ce soit étanche?
Voilà, tout à fait. Bon, il y a les planches et tout qui sont impeccables, mais en plus, on a mis ces bâches pour que ça soit nickel, quoi. Il n'y a pas de... Là, tu peux y aller, c'est du costaud, hein.
Et vous êtes complètement adossé à la barrière du périphérique, en fait?
Tout à fait, ouais. Tout à fait. En fait, c'est le mur porteur, c'est le mur du périph. J'ai une télé, j'ai un groupe.
Comment vous, où est-ce qu'il est branché, en fait, le groupe électrogène?
Le groupe électrogène, tu sais, je le mets un peu plus bas. Je le mets au loin, là-bas. J'ai le câble qui vient là. Et là, j'ai la multiprise. Et voilà, j'ai ma télévision avec mon DVD dessus, qui est incorporé. Voilà, j'étais installé comme il faut, quoi, en fin de compte. Hein. Il y avait mon autre toilette et tout, mais là, tout est en boxon. Parce que, bon, je suis en train de prendre et mettre ça en sac. Tout ce qui est récupérable, quoi, tout ce que je peux sauver. En un an de temps, j'ai vu personne ici. Il n'y a personne qui est venu me voir. Les premiers policiers qui sont venus ici, ça remonte à 15 jours. Eux, ils sont venus, ils m'ont dit, fais attention, tu vas te faire virer. Bon, j'ai cru sans y croire. C'est bon, ça fait longtemps qu'on est là et tout. Bon, ils ont peut-être voulu me booster un petit peu. Alors, j'ai cru sans y croire.
Et les policiers vous ont dit pourquoi vous deviez partir?
Ben, les policiers ne m'ont rien dit, attention, hein, ils m'ont rien dit. C'est le gars de la BAPSA qui était là.
Qu'est-ce que c'est la BAPSA?
Bon, la BAPSA, c'est, on va dire qu'ils sont habillés comme la police, mais c'est pas la police, hein, ça n'a rien à voir avec la police. Hein. C'est plus des assistants sociaux, on va dire. Et c'est la personne de la BAPSA qui était super sympa, qui m'a dit, on va vous virer pour la Coupe du Monde de rugby, parce que dans Paris, il n'y a pas de misère. La misère n'existe pas dans Paris. Ah, que c'est marrant.
Donc on vous a dit qu'il fallait partir parce que finalement, l'arrivée de personnes du monde entier à Paris, finalement, vos baraquements le long du périph, on ne pouvait pas leur montrer ça?
Oui, ils ont honte de me voir, oui, plutôt, oui. Ils ont honte de me voir, mais j'existe. On existe. Parce qu'on est pas mal, on est une dizaine quand même. Hein. On existe, on a le droit de vivre. Qu'on nous laisse vivre, bon Dieu. On ne demande pas beaucoup. La preuve, on ne leur demande pas de nous donner un logement. On se les fait nous-mêmes, notre petit endroit. Puis on a pris nos habitudes, on a pris nos... Comme je vous dis, nous, on fait de la récupération. On recycle beaucoup de choses.
Qu'est-ce que vous faites, en fait? Comment ça se passe?
Ben, j'ai fait les encombrants, je ramasse ce qu'il y a. Sarah, laisse, fais le goût tranquille. Laisse, fais le goût tranquille. Et voilà, je fais les débarras, mais je fais aussi les poubelles. Et tout ce que je peux récupérer qui est encore en bon état ou en état de marche, même à la limite, si c'est pas en bon état et que je vois que je peux restaurer, je prends quand même pour le restaurer aussi. Hein. Et le week-end, je vais vendre. Plus, comme j'ai expliqué déjà, il y a certains objets qui ont un peu plus de valeur ou qui sont anciens. Là, je les mets de côté pour pouvoir faire aussi des brocantes. Et c'est ces objets-là que je vais perdre. C'est-à-dire les objets qui ont le plus de valeur. J'y vais tous les soirs. Tous les soirs, de 9h du soir jusqu'à 9h le matin. Et ça pendant un an. Alors c'est un travail, hein. C'est un travail où je vais mettre mes objets, où je vais mettre...
Parce que finalement, vous avez peur d'être expulsé d'un jour à l'autre ?
Tout à fait, tout à fait. On me donne 3 jours maintenant. Hein.
Comment ça va se passer, vous pensez ?
Tu sais, hein, il n'y a pas de mystère. Hein. Ils vont venir, ils vont me dire casse-toi et encore, s'ils me laissent le temps de prendre quelques sacs. Hein.
Ils vont tout démolir ?
Ils vont tout démolir, aller mettre ça en benne. Hein. Vous savez que bon, tout ce que j'ai récupéré en un an de temps, eh ben, va aller à la poubelle, quoi, hein, va aller à la benne.
Hein. Est-ce que vous vous sentez, rejeté ?
Tout à fait. Ben oui, tout à fait que je me ressens rejeté. Parce que j'essaye d'être correct, d'être honnête. C'est pas facile d'être honnête en étant dans cette situation. J'essaie d'être honnête. On veut pas me laisser réussir. Parce que je demande pas grand-chose. Qu'on me foute la paix à un laps de temps. Déjà, bon, là, je me suis retrouvé. J'ai trouvé mes repères. Maintenant, il me manque quoi ? Il me manque un petit pécule de côté pour pouvoir aller voir un bailleur ou voir n'importe qui puis lui dire, bon, voilà, j'ai telle somme d'argent. Est-ce que tu peux me louer maintenant ? Mais là, si on vit encore une nouvelle fois, il va falloir combien de temps encore ? Parce que quand on perd tout en un coup. Et quand on se refait. C'est pas en un coup qu'on se refait, hein. C'est en plusieurs étapes.
Il va falloir repartir de zéro ?
Tout à fait. Mais c'est comme je t'ai expliqué tout à l'heure, c'est une renaissance. C'est comme si je renaissais encore une nouvelle fois, encore. Ça fait déjà maintenant, là, qu'on me fait mal comme ça, comme ce coup-ci, là, ça fait 4 fois.
Microscopie.
Ça fait 4 fois.
Édouard Zambo.
Daniel Terrol, le chiffre qui est communément admis, c'est 86 000 sans domicile fixe en France. C'est un chiffre que vous, une estimation que vous faites vôtre.
Bon, c'est-à-dire que...
C'est l'INSEE hein, qui avait donné ce chiffre en 2006.
Non, c'est très difficile de savoir à peu près quelle est la population de SDF en France.
Dont un tiers travaillerait, hein, précisait l'INSEE à l'époque.
Oui, mais bon, le problème de l'INSEE, c'est que, alors que le SDF existe depuis le début des années 90, ils n'ont toujours pas défini un item SDF qui permettrait statistiquement de pouvoir les sortir des personnes qui ne travaillent pas, des inactifs, et qui nous permettrait surtout de pouvoir les sortir au niveau de la mortalité, hein, de trier ces bulletins de décès, et de pouvoir ainsi savoir quelle est la mortalité véritable des sans domicile fixe. Donc je me demande si l'INSEE ne se hâte pas lentement, un peu sur ordre, puisque c'est un établissement public, hein, donc pour traîner un peu les pieds, et on n'a pas arrivé à définir...
Là aussi, il y a une volonté de ne pas voir.
Plus mes recherches ont avancé, plus je pense en effet qu'il y a une volonté de ne pas voir. Enfin, il y a une volonté de cacher délibérément. Hein. C'est-à-dire une question très simple, que deviennent les SDF. Vous avez deux sorties possibles de l'exclusion. C'est soit la réinsertion, soit la mort. Du côté de la réinsertion, vous n'avez aucune statistique. Donc on ne sait pas si elle fonctionne véritablement et comment elle fonctionne. Et du côté de la mort, vous n'avez aucune statistique. Ça veut dire qu'on est obligé de croire aussi bien les pouvoirs publics que le milieu caritatif et humanitaire sur le devenir des sans-domicile fixe. Ce qui est quand même troublant, je dirais, compte tenu du financement important que reçoit ce milieu humanitaire et caritatif, sans obligation de résultat, pour s'occuper des sans-domicile fixe.
Vous n'hésitez pas à parler du
pays de réinsertion.
Vous n'hésitez pas à parler du business de la pauvreté, vous, hein.
Oui, enfin moi je parle du marché de la pauvreté, parce qu'en effet, on s'aperçoit que les sans-domicile fixe nous sont utiles pour recycler des vêtements en leur nom, et donc faire des bénéfices sur des vêtements qui normalement devraient être détruits, pour recycler de la nourriture qui, en leur nom, devrait être détruite et trouve un profit de ce point de vue-là, ne serait-ce que par réduction d'impôts qu'obtiennent les entreprises agroalimentaires quand elles font des dons aux banques alimentaires, etc. Des bâtiments qu'on va recycler, parce qu'il y a très très peu de bâtiments qui ont été construits pour l'hébergement des sans-domicile fixe. Bien souvent, c'est d'anciens bâtiments administratifs ou industriels qui ont été reconvertis vite fait mal fait, ainsi de suite. Je veux dire, donc Il y a une utilité, je dirais économique, de ces pauvres, et puis il y a surtout le fait que, par le glissement progressif qui s'est fait dans les mentalités entre eux, de donner directement aux SDF ou aux pauvres, à donner à l'intermédiaire, qu'est l'association caritative ou humanitaire, qui elle est censée donner aux pauvres, le marché est laissé à lui-même, à son autorégulation. Et j'aurais tendance à dire, avec un peu de cynisme, parce que je pense que de toute façon la situation est très cynique, que la sincérité des professionnels de l'humanitaire, du caritatif, concernant les plus démunis, m'apparaît aussi équivalente à celle que pourraient avoir les entrepreneurs de pompes funèbres quand ils passent à la télévision pour dire « notre plus grand désir à nous, ça serait que la mort cesse ». Parce que, en termes économiques, c'est pas possible. On ne peut pas penser que la pauvreté doive disparaître, car ça serait, en effet, sabré, dépend entier du travail social, d'une part, de cette espèce de marché de la pauvreté humanitaire, d'autre part, qui fonctionne très bien. Et, bon, qui fonctionne très bien, on pourrait dire avec l'appui, la douce surveillance de l'Inspection Générale des Affaires Sociales. Bon, je dis pas que celle-ci est complètement dans une collusion complète avec ce marché, mais elle est quand même dans une certaine collusion. Bon, elle ramène les brebis égarées quand vraiment elle se laisse aller à trop de détournements de fonds manifestes.
Il y a régulièrement quelques affaires, une récemment.
Mais le problème, c'est pas tellement qu'il y ait des gens qui détournent des fonds. Le problème, c'est que, d'après mes travaux, je dirais que globalement, l'ensemble des fonds donnés pour les SDF sont systématiquement détournés. Je veux dire qu'on nous prouve, qu'on nous démontre, qu'on fait de la réinsertion, qu'on nous calcule le nombre de SDF qui sont réinsérés au regard des sommes pharaoniques qui sont données par l'État ainsi que par le privé pour la réinsertion des SDF. Qu'on nous prouve quel est l'état de la mortalité des sans-domicile fixe. Je veux dire, et à partir du moment où on n'a pas ces données sur ce que deviennent les SDF, je veux dire, on est dans le champ de la croyance.
Connaît-on l'espérance de vie d'un sans-domicile fixe aujourd'hui à Paris ?
Mais écoutez, officiellement, on ne la connaît pas. Enfin, voilà, je vais dire les choses autrement. Je suis persuadé qu'elle est connue du ministère de l'Intérieur, mais que ces chiffres ne sont pas révélés. Bon, alors il faudra s'interroger sur le pourquoi ces chiffres ne sont pas révélés et pourquoi le ministère de l'Intérieur les connaît. Parce que tous les cadavres trouvés à la rue à Paris, dans les espaces publics, dans les rues, etc., passent obligatoirement par l'Institut médico-légal. L'Institut médico-légal de Paris enquête sur les formes de cette mortalité, si c'est une mortalité naturelle ou sinon c'est une mortalité, je dirais, par agression, etc., saisit le parquet, si c'est le cas, dans le deuxième cas, etc. Bon, en plus, au niveau statistique, on ne peut pas les sortir, puisqu'il n'y a pas d'item SDF, et donc leur nombre est noyé avec l'ensemble des inactifs. Donc, on a l'impression qu'on a un ensemble de dispositifs qui sont totalement opaques et qui visent à nous laisser dans la situation seulement de croire que tout va pour le mieux dans ce qui est fait en matière de politique sociale et des effets de ces politiques sociales.
Qu'on fait le mieux possible. L'illusion que vous dénoncez, c'est celle qui consiste à nous faire croire, à nous donner bonne conscience en disant tout ce qui est possible est fait.
Mais bien sûr, tout ce qui est possible est fait. D'autre part, oui, mais quels sont les résultats ? Je veux dire, la question que je pose, c'est ça. Je ne demande qu'un démenti en tant que chercheur. Je veux dire, moi j'arrive sur un cul-de-sac qui est complet. D'abord, je remarque que dans l'ensemble des recherches qui sont faites sur les SDF, que ce soit en sociologie ou en anthropologie, on est très très peu à poser, on est un ou deux à poser la question du devenir des SDF. L'ensemble des collègues ne refusent de s'engager, sans doute parce qu'ils ont déjà anticipé, en effet par connaissance du terrain, les effets des politiques sociales sur cette population, on refuse de s'engager dans le questionnement de leur devenir. Bon, c'est un sujet tabou. Alors je ne dénie pas que ça soit hyper difficile d'arriver à faire de la réinsertion, parce que des gens qu'on laisse de plus en plus casser à la rue, la rue casse et elle casse très très vite les personnes, c'est d'autant plus difficile de les réinsérer. Bon, et que ce sont des opérations qui sont longues, qui sont semées d'embûches, mais qu'on ait des chiffres, je veux dire, et qu'on les aligne par rapport, je dirais, aux sommes pharaoniques qui sont données pour la réinsertion. Et à ce moment-là, en fonction de ces chiffres, on aura une évaluation d'efficacité de ces politiques sociales. Même chose pour l'humanitaire, je veux dire.
Comment, justement, à propos de ces sommes, comment est-ce que vous expliquez ce mouvement de balancier un peu perpétuel qui traverse la société française avec une immense compassion de temps en temps l'hiver et puis une opinion publique qui soutient des arrêtés anti-mendicité l'été. Comment est-ce que vous expliquez ce va-et-vient ?
Écoutez, d'abord, toutes les sociétés, depuis l'étude de Marcel Mauss sur les variations saisonnières des sociétés esquimaux, toutes les sociétés sont soumises à des
aléas climatiques.
Des adaptations, voire des inversions ou à des doubles structures suivant l'été. l'été, l'hiver, etc. On pourrait dire plus précisément aussi que quand on fait appel ou on délègue aux caritatifs ou à des associations, et donc avec pas mal de caritatifs ou des professionnels, les missions de caritatif, l'aide aux plus démunis, il y a un phénomène d'épuisement aussi qui peut se passer, qui fait que pour être présent toute l'année, c'est un peu difficile pour ces caritatifs. Bon, ceci dit, il faudrait.
Vous qui travaillez là-dessus, est-ce que la différence de vie quotidienne, mis à part le froid, est-ce qu'il est beaucoup plus difficile d'être SDF en hiver? Est-ce que c'est beaucoup plus pénible?
Non. Enfin, écoutez, c'est difficile. Moi, je ne suis pas SDF, donc la question, il faudrait la poser aux personnes qui subissent ça, les aléas climatiques. Je ne pense pas que ça soit plus difficile. Sans nul doute, par contre, il est plus redoutable d'être SDF l'été en ville que l'hiver. Pour la bonne raison, c'est que l'été, ça fait déjà quelques années qu'on en parle, il y a quelques efforts de fait, mais pas suffisants.
Il n'y a pas de structure d'accueil.
C'est très difficile, ça devient difficile de se nourrir, ce qui n'est pas le cas en hiver, les soupes populaires ferment, etc. Les dispositifs d'hébergement sont allégés, et au 115, quand ils téléphonent, les gars s'entendent répondre par les responsables du SAMU social, on n'a plus de place, mais de toute façon, il ne fait pas froid, vous pouvez dormir dehors. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a plus de motivation compte tenu du risque de mort. Parce que quand même, ce qui est déterminant, c'est que compte tenu des politiques sociales que nous avons vis-à-vis des SDF, de l'ambivalence qu'a notre société vis-à-vis de l'ambiguïté ou du mensonge qui est cette espèce d'appel à la solidarité ou à la cohésion sociale. C'est vraiment une des représentations qui fonctionne comme des mensonges complets, ça. Mais enfin, on en a sans doute besoin. Ces SDF sont quand même en péril beaucoup plus l'été. Là aussi, je rebondis là-dessus, la canicule 2003, si vous prenez les déclarations officielles qui ont été faites, c'est absolument extraordinaire. Il y a eu 3 ou 4 SDF, tout au plus, qui sont morts victimes de canicule. Naturellement, l'ensemble des autres cadavres ont été noyés dans ce qu'on peut appeler le merdier mortuaire, qui était la situation sur Paris à cette époque-là, avec des locations d'entrepôts frigorifiques à Rungis, de camions frigorifiques pour essayer de pallier à l'encombrement de cadavres des 15 000 morts qu'il y avait eu sur la région parisienne. Donc là aussi, ça a été un lock-out. Les pompiers ont refusé de donner le nombre d'interventions concernant les SDF ou qui que ce soit. Je veux dire, on a l'impression qu'il y a eu un contrôle pour minimiser, en effet, ces effets-là. Et sur les SDF, ça a été le lock-out complet.
Est-ce que vous avez l'impression, au cours de ces 20 années de travail, que la vision sur la pauvreté, qu'on appelle rarement d'ailleurs la misère ou la pauvreté, est-ce que cette vision évolue? Est-ce qu'il y a un changement de société philosophique, je dirais presque là?
Pour en revenir à notre sujet sur les équipements dissuasifs urbains, il est évident qu'on assiste, dans les cadres des rénovations des centres-villes, à une évolution très nette qui est celle d'une préférence donnée dans les aménagements à la présence des consommateurs plutôt qu'à celle des citoyens. C'est très clair, quelques exemples, Clermont-Ferrand, rénovation de la place de Jaude, qui est la place centrale, diminution considérable du nombre de bancs publics, augmentation considérable, multipliée par 3, de la surface des terrasses de café. Même chose, gare de Bordeaux, les passagers sont en attente, sont obligés de s'asseoir sur leur valise, mais s'ils veulent s'asseoir, alors qu'il n'y a pas un banc, ils peuvent aller au buffet de la gare consommer. Maintenant, le deuxième point, ce qui n'a pas changé, c'est la position, philanthropique. On n'a pas de politique sociale véritablement en termes de justice sociale vis-à-vis du logement de ces personnes. On a des politiques qui sont des politiques philanthropiques, c'est-à-dire avec...
compassionnelles.
Oui, mais qui sont bicéphales, qui sont à la fois « je t'aime » mais « je t'aime pas ». Je t'aime l'hiver, et qu'est-ce que tu me ferais mal au cœur si tu mourais? Par contre, l'été, je veux pas te voir, et si tu meurs, ça ne me dérange absolument pas.
Daniel Terrol, je vous remercie. Je rappelle les références de votre dernier ouvrage, qui est coécrit, un bouquin à quatre mains, donc « SDF, critique du prêt-à-penser aux éditions Priva ». Des références que, évidemment, vous pourrez retrouver sur la page de Microscopie sur le site de RFI. Merci de votre attention. Vous pouvez, évidemment, nous envoyer vos réactions sur notre adresse électronique microscopie@rfi.fr. Bonne semaine à tous. Au revoir.
Ça dérange. Ça dérange. Il ne faut pas qu'on voit que la misère existe dans Paris. Parce que c'est pas... On ne peut pas comprendre. On parle de tant d'argent. On ne veut pas voir que cette misère, elle existe réellement. Qu'on le veuille ou pas, ça existe.